Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, l'heure de notre émission Une heure en Palestine. Nous sommes avec vous et en Palestine sur Radio Galère 88.4, comme tous les mercredis de 18h à 19h. Moi je suis Juliette, animatrice de la campagne BDS France et du comité local BDS Provence. Vous savez que nous avons une page Facebook, BDS Provence, sur laquelle vous pouvez nous laisser en message privé vos coordonnées si vous désirez que nous vous contactions pour que vous puissiez participer à nos actions. Nous faisons régulièrement des actions d'appel au boycott. Actuellement, nous menons une campagne contre Carrefour, les magasins Carrefour. Donc nous faisons des actions devant les magasins Carrefour. Nous menons également une campagne contre la BNP Paribas, contre les banques en général et plus particulièrement la BNP Paribas qui a investi pas mal d'argent dans des entreprises israéliennes et notamment des entreprises qui ont un lien avec des entreprises d'armement et qui ont un lien aussi avec des entreprises qui construisent les colonies, toutes les infrastructures des colonies illégales. Voilà, donc nous menons des actions. Donc si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez nous laisser un message en privé sur notre page Facebook ou par mail. Notre adresse mail, c'est bdsprovence, tout attaché, hein, bdsprovence@orange.fr. Nous avons également un compte Instagram, bdsprovence.13. Nous avons également un compte Twitter. Donc tout ça, ce sont des moyens pour vous de voir nos actions, de voir nos publications, nos comptes rendus d'action quand nous publions les photos, les comptes rendus, etc. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas également à nous contacter pour nous rejoindre. Donc ce soir, en fait, j'ai décidé de faire un petit peu de révision au niveau de l'histoire de la Palestine, notamment à partir du début du XXe siècle, disons à partir du début du sionisme, hein, de cette théorie du sionisme. Et en fait, c'est sous forme d'une interview qui a été menée sur la chaîne Thinkerview. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, c'est une chaîne YouTube, la chaîne Thinkerview. C'est une interview du député Aymeric Caron. Je ne vais pas vous présenter Aymeric Caron parce qu'il va se présenter lui-même dans ce que vous allez entendre. Mais en tout cas, sachez que Aymeric Caron, c'est un député avec lequel nous avons de bons contacts, qui est un député qui est très investi dans le soutien à la Palestine, dans la cause palestinienne. Et nous communiquons avec lui très régulièrement. Nous lui apportons des informations pour qu'il nous aide dans nos campagnes, dans nos demandes, etc., dans ce qui est retransmis à l'Assemblée nationale. Donc voilà, et là il fait une interview qui est très très longue, en fait, qui dure 2h30, plus de 2h30. Donc nous allons simplement écouter la première partie qui dure un petit peu moins qu'une heure, et nous aurons la deuxième partie. Soit vous allez vous-même sur la chaîne Thinkerview de YouTube, hein, et vous pouvez écouter toute la fin de son interview, soit nous essaierons de diffuser la deuxième partie dans une autre émission. Donc ça s'appelle, en fait, sur cette chaîne, l'entretien s'appelle « Gaza sous le blocus, est-ce une question de sécurité ou de punition ?» Donc je vais vous laisser écouter tout ça en vous souhaitant une bonne écoute et puis une bonne soirée, et en vous disant bien à mercredi prochain pour la prochaine émission d'une heure en Palestine. Bonne écoute.
Aymeric Caron, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ?
Je suis député de la 18e circonscription de Paris. Je suis président d'un parti que j'ai fondé il y a 6 ans maintenant, qui s'appelle la Rêve, Révolution écologique pour le vivant, qui est un parti d'écologie radicale et antispéciste. Parti qui s'est allié à la France insoumise aux législatives 2022. C'est ce qui fait que je suis aujourd'hui élu. Avant ça, j'étais journaliste pendant pas mal d'années. J'étais reporter et j'ai aussi écrit un certain nombre de livres.
Reporter de terrain ?
Reporter de terrain, reporter, ce qu'on a coutume d'appeler reporter de guerre à certains moments, puisque j'ai couvert pas mal de conflits. Par exemple, la guerre en Irak. Je sais pas, entre 2002 et 2004, j'ai dû y aller 5 fois et j'étais pendant vraiment ce qu'on appelle les bombardements. La Côte d'Ivoire, je suis allé dans les Balkans, faudrait que je repense un petit peu à tous les endroits où je suis allé, mais pendant 6-7 ans de ma vie, c'est ça que je faisais, je voyageais énormément. Je suis allé en Israël, évidemment au Liban, je suis allé aussi.
On embrasse le Liban.
Bien sûr, on pense très fort aux Libanais, on est avec eux.
Vous avez fait venir aujourd'hui pour parler conflit israélo-palestinien, faire le point, essayer de comprendre, essayer de voir comment la France se comporte autour de ce conflit. Ma première question, c'est pourquoi ces deux camps se battent ?
Oh mon Dieu, c'est vraiment ça ta première question ?
Quelles sont les revendications de chacun ?
Voilà, c'est une question extrêmement compliquée. Pourquoi ils se battent ? Si je devais résumer en quelques mots, on est dans un conflit d'ordre colonial. Mais il faudrait revenir à toute l'histoire, à toute la genèse de ce conflit. On doit revenir un siècle en arrière, on doit revenir à la manière dont Israël a été créé, expliquer l'injustice qui a été faite originellement au peuple palestinien.
L'injustice qui a été faite par qui ?
Par nous. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui des pays comme la France, la Grande-Bretagne sont complètement muets face au génocide en cours. C'est qu'il y a un sentiment de culpabilité, ils cherchent toujours à se racheter de trahison qu'ils ont commise à l'égard des Arabes de la région, du Proche-Orient, au début du XXe siècle. C'est un peuple qui a été trahi, à qui on a promis des choses. Ça, c'est la première phase, peut-être qu'on va y revenir dans quelques instants. Et puis ensuite, il y a la manière dont l'État d'Israël a été créé et les injustices fondamentales que ça a créées aux Palestiniens qui habitaient ce territoire et à qui on a dit « vous dégagez ». Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé dans les années qui ont suivi la guerre. En 47, 48, vraiment à partir de 48, quand l'État d'Israël a été proclamé. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un peuple qui a été complètement oublié, qui a été sacrifié, le peuple palestinien, pour expier nos péchés, pour expier nos fautes, qui sont multiples. Là, comme en l'occurrence, il a été décidé par la communauté internationale, comme on l'appelle de l'époque, de dire on va offrir ce territoire au peuple juif, qui était harcelé, qui a vécu une histoire terrible, qui sortait de la période la plus affreuse que l'on connaît tous, qui est la Shoah, ces 6 millions de morts, et qui avait besoin d'être protégé notamment du fait que les Occidentaux n'avaient absolument pas su réagir quand ces Juifs avaient été attaqués pendant la guerre, qu'ils avaient laissé faire, qu'ils s'étaient tus.
Qui avaient collaboré pour certains,
qui n'avaient pas du tout été à la hauteur de la lutte qu'il aurait fallu mener pendant des décennies, c'est-à-dire entre le début du XXe siècle et la Seconde Guerre mondiale, pour lutter contre l'antisémitisme, qui était tellement fort, avec les pogroms qui avaient lieu, les États-Unis qui refusaient d'accueillir des Juifs dans les années 30, etc. Donc, l'Occident porte une part de responsabilité dans le sort qui a été fait aux Juifs, et avait besoin aussi de se rattraper. La France, évidemment, la France, qui a collaboré, qui a livré des Juifs. Donc, ça a arrangé tout le monde, à un moment de dire, la question juive, ou ce que certains ont appelé le problème juif, on va le mettre là-bas, au Proche-Orient, et ce sont les Palestiniens qui vont payer pour nous. Donc, ça, je ne suis pas rentré dans le détail, hein. C'est vraiment, je trace les grandes lignes d'un décor, on peut, si tu as envie, aller dans des zones beaucoup plus précises. Et donc, on a un peuple qui s'est fait virer, coloniser, et qui, depuis maintenant plus de 70 ans, réclame ses droits, tout simplement.
Les Palestiniens, à l'époque, ils n'ont pas fait des accords pour leur laisser des territoires, ils n'ont pas signé des papiers, on leur a mis la chose sous le nez.
C'est un plan de partage de l'ONU qui a été décidé en 1947, qui a été fait sans que les Palestiniens soient consultés. Alors après, on dit, oh ben, ils étaient opposés. Ben forcément, ils étaient opposés. Si on arrive chez toi et on te dit, ton appart, là, demain, Tu le sépares en deux, il y a des gens qui vont venir chez toi. Pire, tu le donnes. Tu le donnes et tu t'en vas. Tu vas dire, ah, excuse-moi, ça ne me convient pas vraiment. Donc c'est ça qui s'est passé. Si vraiment on revient un petit peu plus en arrière, la première trahison, celle dont je parle, c'est en 1915-1916. Tu as les Britanniques qui promettent au shérif de la Mecque, Hussein Ben Ali, que si jamais ses troupes, les Arabes, combattent avec les Britanniques, les Ottomans, eh bien, à l'issue de la guerre, ils auront le droit à un État arabe, un royaume arabe. Promesse qui ne sera absolument jamais respectée. Et d'ailleurs, au moment où elle est faite, cette promesse, ils pensent déjà à la trahir, puisque la déclaration Balfour, elle intervient en 1917. Les accords Sykes-Picot qui redéfinissent la région entre les Français et les Anglais, c'est 1916 de mémoire. Donc cette promesse, quand elle est faite déjà, ils savent, ceux qui la font, qu'ils ne la tiendront pas. Donc la déclaration Balfour, je répète ce que c'est une promesse, là encore, du ministre des Affaires étrangères britannique, qui est faite... aux Juifs, de dire il y aura un foyer national juif qui sera instauré en Palestine. C'était au deuxième Lord Rothschild, je crois, que la missive avait été envoyée, qui contenait cette promesse de quelques lignes, hein, c'est une quinzaine de lignes. Bon voilà, donc ça part de là. Déjà, il y a une trahison initiale. Et puis ensuite, il va y avoir un long phénomène jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où... parce qu'il y a effectivement une initiative qui, ce qu'on appelle les sionistes, hein, qui lance cette initiative de création d'un État pour le peuple juif. On ne sait pas d'ailleurs au départ où il doit être cet État, hein, ça discute beaucoup, certains l'imaginent même en Afrique. Hein, enfin voilà, au départ, il n'est pas assuré qu'il aura, il sera forcément installé au Proche-Orient. Et donc on a Theodor Herzl qui est l'homme qui porte ce projet à la fin du XXe siècle, qui va beaucoup œuvrer, hein, pour que cet État puisse exister. Et dans les années ensuite qui vont aller jusqu'à la guerre, les années 20, 30, il va y avoir une immigration juive qui va être organisée, hein, qui va être financée, encouragée, avec des achats de terres, etc., qui va redéfinir complètement déjà l'équilibre démographique de la région, puisque... Au début de la Première Guerre mondiale, il y avait à peu près 10% de Juifs sur le territoire qui, aujourd'hui, constitue Israël, la Palestine. Et donc, il y a un plan de partage qui est décidé par l'ONU en 1947. C'est vraiment des ellipses, parce que sinon, on n'a pas fini. Il y a la Shoah, il y a ce drame absolument terrible, il y a des Juifs qui ne savent plus où aller, qui errent réellement. Et donc, ça accélère considérablement le projet initial qui avait été permettre aux Juifs d'avoir un endroit où ils se sentiraient en sécurité. Voilà. Et le drame de l'Holocauste, de la Shoah, va accélérer la création de cet État. Et c'est là qu'il y a un plan de partage qui est donc dessiné par l'ONU, sans que les Arabes soient consultés, qui va déboucher, parce qu'il y a une résistance, sur une guerre, hein, je fais vraiment très, très court, parce qu'on peut entrer plus dans les détails si tu le désires, entre les Arabes qui vont être aidés par les pays arabes environnants et par les Juifs, qui va durer de 48 à 49. La guerre s'arrête, à ce moment-là, quand la guerre s'arrête, la population juive détient à peu près 80% du territoire. Puis ça va durer, il va se passer encore un certain nombre de choses, puis on arrive à 67, qui est un autre moment qui est très important, où en 67, Israël va aller conquérir vraiment concrètement les autres territoires qui sont donc aujourd'hui la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Voilà un petit peu un résumé très rapide, mais comment peut-on résumer en 5 minutes une histoire aussi longue, aussi complexe, emplie de tellement de douleurs?
67, il y a un élément qui les a poussés à aller conquérir les territoires ou pas?
Oui, la volonté de les reconquérir. Hein.
Et maintenant?
Il y a un point historique, si tu veux. Israël va raconter, parce que l'une des grosses difficultés sur ce conflit, c'est la réalité des faits. Tu le vois très bien dans la période qu'on traverse depuis un an en particulier, tu entends... tout et son contraire, sur ce qui se passe, sur les raisons qui ont amené à ce qui se passe, Et on voit bien qu'il y a des versions qui s'opposent. Et d'ailleurs, sur l'histoire même du conflit, on a eu une vision un peu erronée de ce qui s'est passé. Comme je le disais, je ne peux plus tout raconter en 5 minutes, mais ce qui va se passer en 1947 avec le plan de partage, avec l'idée que, parce qu'à ce moment-là, ce sont les Britanniques hein, qui gèrent ce qu'on appelle la Palestine mandataire. Ce qui va se passer, c'est que quand les Juifs vont arriver pour s'installer, et que donc les Palestiniens vont être chassés, on va avoir ce qu'on appelle la Nakba. La Nakba, ce sont des Palestiniens qui sont chassés de leur maison. Ce sont des villages qui sont rasés. Et donc, on estime qu'il y a entre 700 et 800 000 Palestiniens qui sont chassés de chez eux, des villages entiers, à peu près 400 villages, qui disparaissent de la carte. Et cette question-là, par exemple, elle a été inconnue des Israéliens eux-mêmes pendant longtemps. Et il a fallu que ce qu'on appelle des nouveaux historiens en Israël se penchent sur le sujet pour expliquer que ça s'est passé comme ça. Parce que souvent, l'histoire qui était racontée aux Israéliens eux-mêmes qui habitaient là-bas, on leur disait, vous savez, ce sont les pays arabes environnants qui ont demandé aux Palestiniens de partir. Personne ne les a chassés. C'était un mensonge. Et en réalité, la grosse difficulté qu'il y a sur cette histoire, qui est longue, qui est complexe, c'est qu'il y a beaucoup de propagande, beaucoup de réécriture de la réalité des faits. Donc ça nécessite à chaque fois des mises au point. On réapprend des choses, il faut ressortir des archives. Il y a un travail aussi d'actualisation de l'histoire. Et donc, par exemple, pour 67, la version qui a couru pendant longtemps, c'était qu'Israël s'était fait attaquer. Et donc, elle s'était défendue, et puis elle a fait ce qu'elle a pu. C'est pas ça, c'était vraiment une offensive. Ça aussi, les historiens ont travaillé dessus, ont rétabli la vérité. C'était une guerre de conquête d'Israël, de nouveaux territoires.
Ils ont fait une guerre aussi, ça s'appelle la guerre des six jours, c'est ça ?
C'est celle-là.
C'est celle-là. Et ils se sont fait quand même attaquer, non ?
Je viens de dire que non.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe ?
Alors. Qu'est-ce qui se passe ? Tu me demandes vraiment de faire un...
Au jour d'aujourd'hui.
Alors au jour d'aujourd'hui, il y a eu un événement...
Il ne faut pas dire au jour d'aujourd'hui d'ailleurs.
Non, je sais, c'est un pléonasme. Aujourd'hui, il y a bien sûr... Alors, c'est passé tellement de choses... C'est toujours le même problème, c'est passé tellement de choses. Les intifadas, c'est 87, 2000. Des offensives récurrentes sur Gaza... qui à chaque fois font des centaines ou des milliers de morts, celle de 2014 par exemple, le retrait des colons en 2005 de Gaza, la Cisjordanie, enfin tu vois, la question est tellement générale que je ne peux pas te répondre comme ça en quelques secondes. Mais ce qui se passe, c'est que le 7 octobre, le Hamas a déclenché des attaques terroristes contre Israël. Des attaques innommables, des attaques que personne ne peut soutenir.
Il y a des Français qui se sont fait massacrer.
Bien sûr, 1200 morts, à peu près 400 militaires et 800 civils. Et que suite à ces attaques du Hamas, le gouvernement israélien a lancé une offensive massive contre la bande de Gaza, avec pour but officiel d'éradiquer le Hamas, mais avec pour volonté réelle, et on le sait maintenant aujourd'hui...
C'est qui on ?
Quand on dit on le sait, ce sont tous ceux qui étudient avec une certaine distance et objectivité les événements. Les historiens, par exemple, des historiens israéliens, hein, pas que des israéliens, des historiens de camps qui pourraient apparaître opposés. Ce sont des journalistes qui travaillent la question, ce sont des spécialistes du Proche-Orient. On sait qu'il y a une volonté très claire aujourd'hui de récupérer la bande de Gaza, de faire fuir les Palestiniens qui y vivent. De faire en sorte qu'ils ne puissent pas y revenir, tout simplement. De toute façon, il ne reste quasiment plus rien aujourd'hui à Gaza. Et de tuer, en nombre, encore et toujours, ces Palestiniens.
C'est des pertes collatérales ou c'est une volonté malsaine ? C'est tuer, pour sacrifier des générations et des générations, ou c'est des pertes collatérales de guerre ?
On ne peut plus parler de pertes collatérales. D'ailleurs, c'est un terme qui est en lui-même un peu indécent. Les dégâts collatéraux, je crois que ce sont les États-Unis qui ont inventé cette expression. Ça permet de se disculper de pas mal de choses. Il y a un droit de la guerre. un droit international humanitaire. Qui dit qu'on n'a pas le droit de s'en prendre aux civils? On n'a absolument pas le droit. Ça n'est pas vrai. Quand on entend certaines choses aujourd'hui qui nous disent « ben oui, mais on a le droit de le faire puisque nous nous défendons, donc pas de bol, il y avait des civils », non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a les conventions de Genève, tout ça est très réglementé. Un civil, un innocent, ne doit jamais être pris pour cible. Il peut arriver qu'il soit touché par accident, si je puis dire, alors qu'une cible militaire était visée. Mais ça doit vraiment être l'accident. Si, par exemple, on prend prétexte que des militaires se cachent dans un hôpital, puisque c'était beaucoup dit et répété.
Ce qui était le cas de temps en temps, non?
J'attends les enquêtes indépendantes. Moi, j'ai pas vu les preuves. J'ai vu effectivement les déclarations des porte-paroles de l'armée israélienne. Je ne fais pas confiance aux porte-paroles de l'armée israélienne. Ils ont tellement menti. Ça fait même partie de leur stratégie. Le mensonge fait partie de leur stratégie.
Ils ont menti sur quoi?
Les bébés décapités, par exemple, pour prendre une actualité récente. Hein. Donc, puisque après 7 octobre, on a dit il y a 40 bébés décapités, etc. C'était déjà suffisamment horrible comme ça. C'était passé, c'était pas la peine d'en rajouter. Mais en accréditant l'idée qu'il pouvait y avoir des atrocités encore pires que les pires atrocités, c'est-à-dire par exemple le fait d'aller décapiter des bébés, c'était vraiment pour déshumaniser au possible tout ce qui pouvait se passer, tout ce qui pouvait sortir de la bande de Gaza, et dire on peut donc aller tuer, nous avons affaire à des monstres intégraux, puisque non seulement il y a ceux qui l'ont fait, puis vous savez, ceux qui habitent Gaza, ils soutiennent ceux qui l'ont fait, donc voilà.
T'as vu les images des pauvres gamines qui se sont fait attraper chargés, ensanglantés dans les 4x4.
Tu parles des soldates israéliennes?
Je parle des gamines qui étaient au concert pas très loin de Gaza.
Oui, ou des effectivement. Ouais, mais c'est terrible. Est-ce que j'ai besoin de te le répéter que ce sont des images insoutenables? Personne ne peut soutenir le fait qu'on s'en prenne à des innocents. Il peut y avoir des guerres, des affrontements entre des militaires. Mais rien ne justifie jamais. Le droit de la guerre, c'est pas on le convoque pas quand ça nous arrange ou parce qu'on se dit qu'on est... Non, ça doit s'appliquer tout le temps. Donc, le Hamas a commis des atrocités en s'attaquant à des civils et en prenant en otage, en prenant des enfants en otage. C'est absolument ignoble. Si tu avais besoin que je le précise, c'est peut-être pour ça que tu me posais la question. Mais du coup, quelle était la question que tu me posais?
Maintenant, il se passe quoi? Donc, tu étais en train de me dire il y a eu beaucoup de propagande.
Hein? Oui, mais à quel propos? Parce que finalement, tu fais aller de sous-question en sous-question.
Ouais, tu sais comment je vais être après. Ouais. Tu me parlais de la propagande de guerre, des bébés décapités, légitimant la déshumanisation des terroristes en face, qui leur permettait d'aller avoir une vengeance contre.
Si, je sais pourquoi. On est en train de... Excuse-moi, je reviens. On s'interrogeait sur l'état des lieux un peu, de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, oui, lorsque tu entends les témoignages des officiels israéliens, des militaires, d'une partie de la classe politique, tu te rends compte qu'il y a une vraie intention génocidaire. C'est pour ça que je te dis... On parlait de dommages collatéraux. Oui, des exemples, on a plein. On a monté un film... avec mon équipe. Pardon, cette fois-ci, c'est moi qui ai fait une digression. On a monté un film avec mon équipe qui reprend un certain nombre de ces exemples. Je vais y revenir tout de suite. Mais peut-être expliquer déjà pourquoi on a monté ce film. Parce que ça, c'est un vrai problème. On a monté un film d'une heure et demie sur le déroulé des événements à Gaza depuis octobre. Et on l'a alimenté d'images à la fois qu'on trouvait sur les réseaux sociaux, mais également d'images venues de la télévision israélienne, sur des déclarations d'officiels, du Premier ministre, du ministre de la Défense, du président, de députés, ainsi de suite. Et c'est donc là qu'on trouve, dans ce film, on trouve une compilation, je trouve, assez éloquente, de déclarations absolument effrayantes, entre le ministre de la Défense qui va dire « on a affaire à des animaux humains », entre une députée qui va dire « je suis contente de ce que nos troupes sont en train de faire à Gaza, et dans des générations, nous serons encore fiers d'avoir pu dire qu'on a éradiqué toute vie là-bas, etc. etc. » Donc on a vraiment on a beaucoup de témoignages aussi de soldats sur place, qui se prennent en vidéo. C'est un énorme problème d'ailleurs pour l'armée israélienne, parce qu'il y a beaucoup de soldats qui bravent le processus officiel et qui se filment, qui machin, et puis on les voit en train de se réjouir d'avoir détruit une cible, d'avoir tué des gens. Enfin, ouais, il y a quelque chose d'extrêmement violent et malsain dans à la fois ces déclarations et ces images. Et ce film, pourquoi on l'a fait ? Ce film qui donc on l'a rendu public, je crois début juin. On l'a diffusé à l'Assemblée nationale, il est visible maintenant sur une plateforme qui s'appelle Les Mutins de Pongé. Le film s'appelle Gaza depuis le 7 octobre. À l'Assemblée nationale d'ailleurs, c'est intéressant, il n'y a que 17 députés qui ont fait le déplacement pour venir le voir. On est 577, hein, je le rappelle, dans l'hémicycle. Et en revanche, en ligne, au bout de 10 jours, il y avait déjà plus de 300 000 vues. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un décalage total sur lequel il faut qu'on s'interroge entre l'intérêt réel des gens et puis la manière dont la classe politique et les médias parlent de ce qui est en train de se passer. Et j'arrive justement à ce que je voulais te dire. Si on fait ce film, c'est parce qu'à un moment, je me rends compte qu'il y a quand même un truc dingue. C'est que, là, c'est le reporter, en plus, l'ancien reporter qui te parle. C'est que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, je vois sur mon téléphone portable, je vois des images, mais atroces, immondes, insupportables. Des massacres qui ont lieu quotidiennement, des massacres d'enfants qui arrivent dans un état qui est quasi indescriptible à l'hôpital. Et à la télé, je vois rien. À la télé, je vois rien. Sur les grosses chaînes, TF1, France 2, France 3, sur les chaînes info, je vois rien. Donc, je me dis, il y a quand même un petit problème. Et donc, et les morts s'accumulent. On a les bilans qui tombent. Quand on va faire une interview dans un média et qu'on dit, vous savez, le bilan, là, il y a 2000 enfants qui ont été tués. Non, 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 mais tout de suite, le journaliste en face dit, mais ça, c'est le Hamas qui le dit. Alors, vous avez dit, ah oui, vous savez, dans les offensives précédentes du même type, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, en fait, étaient fiables. Donc, pourquoi on les remettrait en cause aujourd'hui, ça? Puis ensuite, les ONG, au bout de quelques semaines, commencent à confirmer les chiffres. Puis, au bout de quelques mois, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui commencent à confirmer. Bref, et on a ce doute permanent qui vient des journalistes eux-mêmes. Ouais, mais on n'est pas sûr que ça existe vraiment. Je ne te parle même pas de la déformation sur les réseaux sociaux, de trolls qui t'expliquent que les images d'enfants que tu vois, ce sont des poupées qui ont été maquillées, des choses comme ça. Mais là, je te parle vraiment du journaliste qui, d'habitude, font un travail sérieux ou sont censés le faire dans les grands médias, à la radio, sur les télévisions, etc. Et donc, je suis estomaqué de constater qu'il y a une omerta totale qui est orchestrée, organisée, voulue sur ce sujet. Et alors, l'excuse qu'on va sortir, c'est oui, mais on n'a pas de journalistes sur place. Comment ça, on n'a pas de journalistes? Oui, il n'y a plus d'envoyés spéciaux, puisqu'Israël, en plus, a tout fermé. Ce qui, d'ailleurs, là encore, pose une vraie question sur la liberté d'expression, puisque les conflits, en principe, on peut les couvrir. Les journalistes ont le droit d'entrer et couvrir des conflits. J'ai jamais vu ça, moi, un conflit où tout est fermé. Les journalistes peuvent prendre des risques. Il y a des conflits qui ont été très meurtriers, d'ailleurs, ces dernières décennies pour des journalistes. Je pense à l'ex-Yougoslavie, par exemple. Mais, en principe, les journalistes, une règle démocratique de base. Même la guerre, on a le droit de la couvrir et d'informer les gens sur ce qui s'y passe. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des journalistes de tous les bords sur un conflit. C'est très important pour qu'il y ait une information juste, parce que la désinformation, je parlais des informations de l'armée israélienne, mais il pourrait tout à fait y avoir une désinformation du côté palestinien du Hamas, hein, bien évidemment. Parce que la désinformation a toujours été une arme de guerre, utilisée par tous les pays. Donc là, non, on ne peut pas savoir. Donc la seule chose qui nous est demandée à ce moment-là, c'est de croire ce que les comptes rendus des porte-parole de l'armée israélienne, ce que croient assez volontiers les médias français, en tout cas ils le relaient, sans trop de distance, mais dès que ça vient de l'autre côté, il y a Hamas qui est marqué à côté, donc non. Les ONG ensuite embrayent, disent « non, mais on le voit, quoi. On a nos représentants sur place, on a nos humanitaires, etc. » Je vous dis, c'est vrai, les chiffres sont vrais. Mais quand même, nos journalistes les remettent encore en cause. Et donc, à un moment, je me suis dit, quand je voyais dans l'hémicycle le silence de la plupart de mes collègues sur les atrocités en cours à Gaza, je me dis, il y a un problème. Alors peut-être qu'ils sont désinformés, peut-être qu'ils ne savent pas. Eux n'ont pas fait l'effort, ils sont occupés par d'autres sujets, je peux comprendre, on peut avoir d'autres centres d'intérêt. Et donc, ils sont complètement passés à côté. Donc on va faire ce film pour montrer la réalité. Et les images qu'on a compilées, elles sont ignobles. Hein. Ce sont donc, alors, on on n'a pas montré les plus durs, parce que même si le film est déjà quasi regardable, on voulait quand même faire en sorte qu'on puisse quand même néanmoins rester dans la salle, même si on a envie de sortir souvent. Ce sont énormément d'enfants, parce que pourquoi les enfants sont touchés là-bas? Parce que la moitié de la population à Gaza a moins de 18 ans. Donc forcément, c'est... Ils occupent une part énorme des victimes. Il faut peut-être rappeler le bilan, d'ailleurs, parce que là, on commence l'entretien, mais je ne sais pas si les gens qui nous écoutent nous regardent, 11 bilans en tête. On a un bilan dit officiel, qui est de 40 000 morts et de 10 000 disparus à peu près. Donc on est à peu près à 50 000 morts, parce que les disparus sont morts, évidemment. Là, on parle des morts qu'on a trouvés. Hein. Ceux qu'on met dans les 40 000, c'est ceux dont on a retrouvé, dont on peut dire, voilà, c'est le corps de telle personne. Et ensuite, les 10 000 sont des gens qui sont encore sous les décombres et qu'on ne trouvera peut-être jamais parce qu'ils sont en petits morceaux, en tout petits bouts. Mais en réalité, le bilan est probablement 2 à 3 fois supérieur. C'est ce que nous disent les humanitaires qui reviennent de Gaza, puisqu'il y a des humanitaires qui continuent à s'y rendre, à tenter de soigner dans les conditions extrêmement difficiles. Ils nous disent qu'avec notamment les morts indirectes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas comptabilisés tout de suite, parce que d'abord, ils ne meurent pas forcément de leurs blessures tout de suite, ils vont survivre quelques semaines, et puis ils mourront, puis ils ne seront pas comptabilisés là dans les 40 000 morts. Il y a des gens qui meurent aussi de ne plus avoir de traitement, des gens qui sont soignés contre le cancer, qui suivent une dialyse, etc. Beaucoup d'enfants notamment, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a aussi une explosion des cancers à Gaza en ce moment, sur lesquels il faudrait se pencher, s'interroger. Et donc, les humanitaires nous disent, mais en fait, ce sont des morts de la guerre aussi. Des gens qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas être soignés d'une maladie qu'ils avaient avant la guerre. Et donc, voilà, les humanitaires nous disent, vous savez, le bilan est sans doute, en réalité, sans doute de 150 000 morts, déjà. Et donc, les images que l'on voit, ce sont constamment des enfants qui arrivent dans un état absolument déplorable, avec... un membre en moins, des membres qui ont été sectionnés, parfois c'est la tête qui est coupée, la boîte crânienne est vide, il n'y a plus rien. Il y a une image, l'autre jour c'était un petit enfant, le bombardement venait d'avoir lieu, il y avait deux petits enfants qui étaient couchés par terre, donc il y avait l'un des enfants qui avait une jambe sectionnée qui hurlait, il était vivant, heureusement il était vivant, mais est-ce qu'il allait survivre, j'en sais rien, je ne sais pas s'il a survécu. Ils sont brûlés, ils arrivent évidemment, ils sont couverts de gravats, de poussière, ils sont perdus. Souvent, s'ils arrivent déjà, c'est déjà presque un miracle. Hein. Ça veut dire qu'ils sont pas sous les décombres, ou ils viennent d'en être sortis. Il y a des enfants qui survivent, mais qui perdent absolument toute leur famille. C'est un énorme problème aujourd'hui à Gaza, les orphelins. Les ONG estiment qu'il y a entre 20-25 000 enfants qui ont perdu soit les deux parents, soit au moins un parent. On ne sait pas du tout ce qu'ils vont devenir, parce que là-bas, l'habitude, c'est que quand un enfant perdait ses parents, toujours une structure familiale qui s'organisait pour l'élever. Mais souvent, ce sont des familles entières qui sont décimées. Il y a des familles de 30 personnes qui sont mortes. Donc il y a des enfants qui n'ont plus personne pour les prendre en charge. Ce sont des enfants amputés très souvent. Il y a des milliers d'enfants qui sont en attente de prothèses. C'est quoi leur vie après?
Est-ce que tu as regardé le film que les Israéliens ont monté sur le massacre du 7 octobre? Est-ce que tu as été voir ce film-là?
Oui, je suis allé le voir. Il était diffusé à l'Assemblée nationale. Et c'est important pour moi d'aller le voir, puisque je suis extrêmement engagé sur ce sujet et j'ai besoin, puis ça fait aussi partie, je pense, du démarche journalistique. C'était pas indispensable, dans le sens où lorsqu'il a été diffusé, ce film, il y avait déjà eu beaucoup de compte-rendus dans la presse, notamment Libération, qui avait assisté à ce film, puisqu'il y avait eu des projections qui avaient été organisées dans différents endroits. Libération avait donné un compte-rendu très très précis, avec même déjà des bouts de vidéos, si je me souviens bien, etc. Donc en réalité, je savais déjà à peu près ce qu'il y avait dedans. Mais néanmoins, quand il a été proposé à projection, j'y suis allé, ouais. Pour avoir tous les éléments, le maximum d'éléments.
Est-ce que tu entends les médecins américains donner des conférences en ce moment sur le type de plaie qu'ils sont amenés à soigner sur des gamins?
Alors, je suis extrêmement plongé dans le sujet, j'écoute pas toutes les conférences, il y a, heureusement on a beaucoup de sources d'informations, mais j'en ai entendu certaines. Ouais, et donc ce qui est très frappant, ce sont les médecins qui racontent, mais des infirmières, on a une infirmière formidable qui s'appelle Iman, qui est allée là-bas, qui nous avait raconté aussi, qui était allée pour l'association Palmed et qui nous avait dit que ce qui était extrêmement impressionnant, c'était de devoir soigner des enfants qui avaient reçu des balles dans la tête. Des enfants, des balles. Donc un enfant qui reçoit une balle dans la tête, c'est pas un dommage collatéral. Surtout de la part d'une armée qu'on nous présente comme l'une des meilleures du monde. Donc, et là, ce que racontent donc beaucoup de médecins en ce moment, c'est qu'ils parlent de double impact sur les enfants. C'est-à-dire une balle dans la poitrine, une balle dans la tête. Et ça, ils nous expliquent que c'est forcément l'objet d'un tir de sniper qui veut délibérément tuer.
Comment les politiques français, tes collègues, de tous bords d'ailleurs, est-ce que tu en discutes avec eux? Est-ce que tu essayes de savoir ce qu'ils en pensent? Où ils se positionnent? Où est-ce que ça va aller? Et que va faire la France?
Tu parles de la classe politique en général?
Française, oui.
Il n'y a aucun dialogue. C'est un sujet que la classe politique française ne veut absolument pas prendre à bras-le-corps. Il y a le groupe politique auquel je suis apparenté à l'Assemblée nationale, la France insoumise, qui a été très présente sur le sujet. Ça lui a été beaucoup reproché, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est beaucoup reproché au général, aux gens qui ont décidé de s'engager pour Gaza. On a des écologistes qui sont présents aussi, socialistes plus timides. Et alors, dans le reste de l'hémicycle, on a quelques personnalités dans chaque groupe politique. Des personnalités qui sont très sensibles au sujet et qui ont envie que ça bouge. Mais les groupes eux-mêmes, ils sont très apathiques, il y a très peu d'expression et une grande peur, une timidité à dire les choses, toujours. Donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Quand moi j'ai pris la parole dans l'hémicycle pour évoquer ces questions, à l'occasion de questions au gouvernement, je crois qu'à chaque fois il y a eu des huées, parce que j'utilisais le mot de génocide, parce que... c'est toujours la première fois que j'ai dit voilà, au crime de guerre du Hamas répond aujourd'hui les crimes de guerre de l'armée israélienne, je me fais huer.
Pourquoi t'emploies le mot génocide?
Parce que je vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre. Parce qu'il est employé aujourd'hui par des spécialistes du droit international, par la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, qui a tout simplement relevé le fait qu'il y a trois actes qui relèvent du génocide, qui ont été constatés sur place, sur les cinq qui permettent de caractériser un génocide, d'après la définition qui en est donnée dans la Convention sur le génocide, qui est de 48, si je ne m'abuse, Convention sur le génocide, Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, qui donc établit cinq actes qui, s'ils sont constatés, permettent de dire ensuite que donc un génocide est en cours. Ce sont des actes qui touchent évidemment à la vie des personnes concernées. Enfin, un génocide, c'est en tout cas, d'après la mission de l'ONU, c'est l'idée de s'en prendre intentionnellement à un groupe pour l'éliminer complètement ou en partie, un groupe donc national, ethnique, racial ou religieux. Alors il y a non seulement effectivement Francesca Albanese, mais il y a aujourd'hui des historiens israéliens par exemple, comme Omer Bartov, qui dit la même chose, qui est spécialiste d'ailleurs des génocides, l'histoire des génocides dans le monde. D'autres historiens israéliens, enfin tous les humanitaires aussi, ceux qui ont l'habitude de ces questions-là. Des juristes qui travaillent pour des ONG, donc qui sont allés sur des périodes de conflit déjà plusieurs fois, et qui nous disent, nous assistons très clairement à un génocide, c'est-à-dire intentionnellement éliminer une partie ou toute la population ou une partie de cette population d'un endroit, d'un territoire, créer des conditions qui ferait que cette population ne peut plus y vivre normalement, ne pourra plus se développer normalement. Voilà, c'est tout simplement le droit international qui nous oblige à parler aujourd'hui de génocide.
Mais t'as couvert l'Irak. Le droit international, ça fait bien longtemps que c'est un double standard. Il y a eu combien de morts avec l'Irak ? 1 million ?
Voilà, c'est compliqué parce que c'est toujours la même chose. C'est très compliqué. Oui, c'est le chiffre qui est souvent avancé. On parle d'un million, mais c'est...
Il y a eu des tortures en Irak. Il y a eu tout un tas d'atrocités faites par les Américains. Donc le droit international, la communauté internationale, ce club de bridge...
Oui.
Ça sert encore à quelque chose ou c'est simplement pour faire la leçon aux pays du Sud ?
Je pense que ce qui est en train de se passer, d'abord la communauté internationale, déjà l'ONU existe, c'est déjà formidable. Le droit international existe, c'est formidable. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est là que se sont établies les règles, notamment je te parlais des règles du droit de la guerre, si je puis dire, les conventions de Genève, le droit international humanitaire. Il naît vraiment à ce moment-là parce qu'on s'est rendu compte que justement, on faisait un peu tout et n'importe quoi, on s'autorisait tout auparavant, avec ce désastre total, ce désastre moral complet qui a été la Seconde Guerre mondiale, où là, tout à coup, les représentants des différentes nations se sont réunis et se sont dit on ne peut plus se permettre ça, il faut qu'on ait quand même s'il y a des guerres sur cette terre, il faut quand même qu'on établisse des limites. Des barrières, des choses qui tout à coup font qu'on bascule de la bestialité la plus totale, enfin en tout cas de l'humanité vers la bestialité la plus totale. C'est pas possible. C'est un désaveu total de qui nous sommes si nous ne sommes pas capables, même dans les moments de conflit, de garder un minimum de règles. C'est la raison pour laquelle je te rappelais tout à l'heure les lois qui font qu'on n'a pas le droit de s'en prendre à des civils. Donc c'est extrêmement important que ce droit international humanitaire existe. Maintenant, c'est un fait qu'il semble de plus en plus difficile de le faire respecter.
L'argument...
Et notamment parce qu'il y a des personnes, des pays, des États extrêmement influents dans les prises de décision qui permettent que les sanctions soient appliquées, les États-Unis faisant partie bien évidemment de ces pays-là.
Les États-Unis, on attend toujours de leur poser la question sur les prisons et vols secrets de la CIA en Europe. Mais c'est dommage, on n'a pas eu encore la chance d'avoir l'ambassadeur des États-Unis pour lui poser deux, trois questions sur certains sujets. Revenons à Gaza. Est-ce qu'il y a de l'aide humanitaire qui arrive ? Est-ce que il reste encore des journalistes sur place ? Est-ce que des infrastructures pour essayer de canaliser le flux de réfugiés ? Est-ce que l'Égypte ouvre ses frontières ? Est-ce que...
Oh là, mais t'es un fou, toi, 28 questions.
Non, mais ça fait que 40 minutes qu'on est en train de commencer.
D'abord, je ne suis pas le mieux placé pour te faire un état des lieux de ce qui se passe à Gaza, parce que je ne suis pas une ONG, je ne suis pas représentant d'une ONG qui, eux, suit vraiment au jour le jour précisément l'état des questions que tu poses, c'est-à-dire l'état des hôpitaux, par exemple. Donc oui, 80-85% des infrastructures ont été détruites là-bas, donc infrastructures, c'est tout, hein. C'est les hôpitaux, les écoles,
les canalisations, les réseaux électriques.
Absolument, tout. Donc les hôpitaux sont dans un état lamentable. Alors ce qui est étonnant, surprenant, c'est que je vois des images d'hôpitaux qui se reconstruisent néanmoins. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de résilience incroyable. On voit des services qui se reconstruisent dans
avec
des hôpitaux.
Quel argent
c'est une bonne question. Il y a des ONG qui aident. Il y a des ONG qui sont présentes sur place et qui aident et qui contribuent. Il vient de là, l'argent.
Pourquoi l'Iran finance le Hamas, le Hezbollah ?
Attends, on est reparti sur autre chose. Là.
C'est fait exprès. Hein.
Oui, d'accord. Ok, bah, vas-y alors.
Pourquoi l'Iran finance ?
Donc il faut que je... Donc il faudrait revenir à ce qu'est le Hamas, alors peut-être déjà. Il y a une énorme polémique après 7 octobre où il fallait absolument expliquer ce qu'était le Hamas comme groupe terroriste. Alors le Hamas qui a de fait commis des actes terroristes, je le répète, absolument impardonnables le 7 octobre. Le Hamas...
Puis avant.
Et avant, qui a des méthodes terroristes et qui a également une branche politique. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre la situation. Le Hamas a été aussi élu. C'est-à-dire que nous, voilà. Avec des méthodes aussi qui, parfois, sur place à Gaza, consistent à faire régner la terreur parmi les habitants. C'est très complexe. Tu vois, c'est vraiment ça, la difficulté de parler de ce sujet. Alors qu'on nous oblige à essayer de prononcer des phrases définitives qui seraient binaires. Et sur un sujet comme ça, si, je peux te dire un truc très, très, très définitif, c'est un génocide est en cours à Gaza. Je peux le dire. Ça, c'est indéniable, il n'y a pas de discussion. Et ensuite, sur chaque sujet, il va falloir qu'on prenne à chaque fois 10 minutes pour rappeler la genèse des choses, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc,
si tu n'es pas sur TF1, tu peux prendre ton temps. Hein.
Et je sais, c'est pour ça que je suis là. Le Hamas se crée, d'abord il se crée, ça faut le savoir, c'est-à-dire il est soutenu à ce moment-là par Israël, dans sa création, financièrement, pour justement affaiblir à l'époque Yasser Arafat, le Fatah, et donc pour essayer de faire en sorte de créer des oppositions parmi les Palestiniens qui rendront toute négociation impossible, puisque le Hamas est opposé initialement aussi à la solution à deux États. Et donc, toute la droite israélienne, la droite dure, incarnée par le courant de Netanyahou, ne veut pas de la solution à deux États. Donc ils ont tout intérêt à renforcer un mouvement comme le Hamas, qui est lui aussi un mouvement extrémiste, qui ne voudra pas travailler en direction de la paix, pour faire en sorte que justement cette solution ne puisse pas aboutir. Et le Hamas s'est constitué, a grandi justement sur les intifadas et sur la fatigue, la colère des Palestiniens, constatant que les négociations de paix ne débouchaient sur rien. C'est-à-dire.
Donc je reviens à ma question. Pourquoi l'Iran finance le Hamas?
C'est une question beaucoup trop complexe. Il y a beaucoup trop d'intérêts en jeu pour que je puisse te répondre en 3 minutes le pourquoi. Il faudrait reparler de tous les équilibres géopolitiques de la région. Je veux bien, mais on va partir dans un sujet qui va peut-être nous éloigner des raisons qui ont voulu qu'on parle aujourd'hui de Gaza et qui me semble surtout. Mais je suis prêt à parler de tout, mais. Je crois que la priorité qui doit s'occuper aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la classe politique française se réveille enfin, faire en sorte que, mais pas que française, hein, les Britanniques, les Allemands, une grande partie de l'Europe en réalité. Bon, les États-Unis, je n'en parle même pas, c'est eux qui financent, donc si les États-Unis disent demain, ceux qui financent l'armement israélien, qui lui fournissent, si jamais les États-Unis disent demain, ça s'arrête. Donc,
pourquoi ils laissent faire?
Pourquoi les États-Unis laissent faire? Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est historiquement l'allié d'Israël, parce que ça arrange les États-Unis qu'Israël occupe cette zone-là au Moyen-Orient, cette zone géographique, pour des raisons économiques. Et puis, il y a évidemment des enjeux électoraux. On a des élections qui arrivent très prochainement. Il y a notamment un groupe d'influence qui s'appelle l'EPAC qui finance les candidats. L'EPAC, c'est une organisation qui travaille pour les intérêts d'Israël, mais aux États-Unis. Et on pourrait revenir sur, là encore, à chaque fois, il faut qu'on fasse 50 ans d'histoire, sur le rôle des États-Unis sur la question de la Palestine. Parce que les États-Unis, au départ, ça ne les intéresse pas trop, en fait, hein, la Palestine. Ce n'est pas eux qui sont concernés, c'est la Grande-Bretagne et la France. Mais de fait, aujourd'hui, depuis quelques décennies, ce sont eux qui sont au cœur des possibilités de négociation de paix. Et en fait, on se rend compte que c'est toujours assez timide depuis quelques décennies. Il y a des gens qui y sont un petit peu plus intéressés, comme Carter, par exemple. Donc là, maintenant, on est dans les années 70, hein, donc ça remonte à loin. Il y a eu les accords effectivement d'Oslo, mais bon, bref. Et là, depuis quelques décennies, les États-Unis ont complètement laissé tomber la question palestinienne. Ça ne les intéresse plus du tout, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt, en fait. Ils ne voient pas l'intérêt pour eux. D'ailleurs, la question palestinienne a été abordée même par les pays arabes depuis un certain nombre d'années déjà.
Et tu as été leur poser la question aux autres pays arabes? Pourquoi?
Non. Non, je n'ai pas traité ce sujet à l'époque où j'étais sur le terrain.
Je vais te raconter une anecdote qui n'a pas valeur de preuve ou de reflet de quoi que ce soit de l'opinion de la ceinture persique. J'ai posé la question cet été à des Dubaïotes.
D'accord.
Relativement confortables financièrement parlant. Et il me dit, je leur ai posé la question, pourquoi vous accueillez pas des Palestiniens le temps que ça se décante un peu? Pourquoi vous prenez pas plus parti pour éviter qu'il y ait des gamins qui passent sous des kilos et des kilos et des tonnes de béton sous les bombes? Et la personne qui était en face de moi, qui est relativement bien connectée, me dit, Tu sais, nous, la ceinture persique, toutes les populations de ces petits pays arabes, on représente un peu plus que la population de la Californie. Donc si on prend parti, les États-Unis vont nous annihiler. Et on a peur de ça. Ce serait bien que tu continues cette discussion si tu as l'occasion avec des gens du coin.
Écoute, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître de manière beaucoup plus prégnante depuis un an. C'est la question du rôle de l'Occident dans l'équilibre du monde. Bon, c'est pas une grande surprise que les États-Unis n'ont jamais été les grands démocrates qu'ils prétendent être. Et quiconque justement a travaillé ces questions, ou quiconque a été reporter, la guerre en Irak en 2003, qui est une guerre impérialiste elle aussi, qui est une guerre économique, qui est une guerre qui repose sur le mensonge, puisqu'on sait qu'il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. D'ailleurs, excellent Dominique de Villepin à l'époque, qui aujourd'hui ressurgit dans les médias pour porter une parole forte, il faut le souligner, sur Gaza et sur le Liban. Moi, je crois que la période, elle est particulièrement instructive parce que toute l'imposture occidentale est en train d'être dévoilée. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi comme toi, j'ai été élevé dans cette idée que l'Occident, la France, d'autres pays d'Occident ont porté les valeurs de la démocratie, des droits humains, nous montrions...
Les écoles pour les petites filles.
Mais voilà, nous montrions le chemin, en fait. Nous montrions le chemin de la civilisation qu'il fallait poursuivre. Et puis, en fait, quand tu plonges un peu dans l'histoire, mais ça, c'est documenté depuis des années, tu lis les bouquins de Chomsky ou certains historiens, tu vois tout de suite, évidemment, tu te rends compte qu'en réalité, non, l'Occident s'est surtout forgé sur la colonisation, l'asservissement, l'exploitation des ressources de territoires qui ne lui appartenaient pas, et ainsi de suite. Et donc, tout ça est en train d'exploser dans une révélation, je disais, parce qu'une situation comme Gaza, elle est paroxystique, justement. D'abord dans l'horreur qui s'y passe, mais également dans ce que toutes les prises de position des uns et des autres révèlent. On a des pays aujourd'hui, l'Afrique du Sud, évidemment, mais pas que. On a l'Espagne, d'ailleurs. L'Espagne qui fait un peu exception en Europe. Mais bon, on a des pays en Amérique du Sud, en Amérique centrale, enfin, dans un certain nombre d'endroits dans le monde qui sont très présents sur cette question des droits humains à Gaza. Bien plus que nous ne le sommes. Et tout à coup, on se dit, mais alors attends, mais notre histoire d'intervention pour les droits de l'homme, pour la démocratie, pour... Mais tout ça, c'était pipeau. Sauf que là, c'est tellement criant, on ne peut plus le cacher. Et c'est ça qui est extrêmement frappant et même déstabilisant en ce moment pour quiconque a été élevé comme moi dans l'idée que, et en croyant que la France était quand même un des pays phares dans le monde et qu'on pouvait être fier de ça. Et là, on se rend compte qu'en fait, non, on habite un pays qui est en dessous. Alors, ça tient aussi beaucoup à ceux qui nous dirigent. Hein. C'est-à-dire que si on n'avait pas au pouvoir Emmanuel Macron, puis des ministres des Affaires étrangères complètement inconséquents, ignares du sujet, je pense que la France pourrait s'honorer à répondre complètement autrement. Mais on a malheureusement des gens qui nous dirigent qui, à mon avis, une connaissance très faible des réalités historiques de la région concernée, qui sont soumis beaucoup à des influences économiques et géopolitiques dont ils ne savent pas s'extraire. Parce que tout simplement, ils n'ont pas la hauteur de vie d'un Villepin, par exemple, qui, je le dis depuis un an, a un discours très fort dans la lignée de celui qu'il avait tenu en 2003 à l'ONU, déjà, où il avait dénoncé la mascarade américaine qui justifiait le fait que les États-Unis allaient intervenir en Irak. Donc c'est ça qui est un moment qui est très troublant, je trouve, un peu déprimant aussi, je pense, parce que tout à coup on se dit mais je n'habite pas le pays que je pensais habiter.
<t'->